Le goût de vivre, une émission de Roselyne Fayard.
Le philosophe Alain l'avait bien senti. Si le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Autrement dit, si les émotions négatives et le regard noir sur l'avenir semblent quasi spontanés, l'optimisme et la joie de vivre qui en découlent sont souvent le fruit d'un travail sur soi. Mais nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. Car une fois intégrée l'idée que le bonheur est à portée de main ou de cœur, il nous reste encore à expérimenter que être heureux n'est pas forcément tout confort sur le plan matériel, affectif ou psychologique. Notre invité Thomas Dansembourg a été avocat, conseiller juridique. Il s'est ensuite formé à la communication non violente de Marshall Rosenberg. Il donne conférences et séminaires depuis des années. Il a publié un premier livre qui avait pour titre « Cessez d'être gentil et soyez vrai ». Et là, très récemment, cette année, il a publié « Être heureux n'est pas forcément confortable », un livre sorti aux éditions de l'Homme. Il est donc notre invité aujourd'hui. Aujourd'hui, nous le retrouverons aux alentours de 14h15, 16, juste avant le témoignage de Michel Montignac. C'est Marc Frochot qui assure la technique. Les musiques de Karine Vuillamo nous accompagnent. Vous êtes là. Bonjour.
J'ai beau savoir et plus y croire, je ne veux
Je ne veux qu'elle, c'était Marc Lavoine et Claire Keim. 14h09, Michel Montignac est nutritionniste, auteur de best-seller sur le thème de la minceur. Il répond à la question rituelle, dans les moments difficiles, quelle est votre ressource ?
Moi, j'ai d'abord une grande spiritualité. Moi, je crois qu'on est sur cette terre, on n'est pas par hasard sur cette terre. On n'est pas là uniquement, comme certains le pensent, pour en profiter, etc. On est là pour faire quelque chose et que toutes les épreuves de la vie sont là pour nous faire avancer. Mmh. Et moi, j'ai toujours, je suis pas masochiste, mais j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à affronter les problèmes. C'est vrai que je me passerais bien les problèmes, mais au fur et à mesure qu'il y a des problèmes, je pense qu'une fois qu'on a résolu les problèmes, qu'on a fait tout ce qu'on devait faire, il y a une grande satisfaction.
Et vous avez changé à travers les problèmes.
J'ai beaucoup changé.
Qu'est-ce qui a changé?
Je pense que là aussi, on a le champ de conscience qui s'ouvre au fur et à mesure. Mmh. Bah, d'abord, l'âge. Hein. au fur et à mesure des affrontements. Et je crois que là aussi, mes adversaires m'ont beaucoup aidé. Je leur dis, quand je les rencontre dans des congrès scientifiques, je leur dis, si on m'avait pas autant critiqué, autant traîné dans la boue il y a 10-15 ans, je n'aurais jamais entrepris tout ce que j'ai entrepris pour démontrer, pour chercher moi-même. Et j'ai toujours dit, si j'arrive à prouver que j'ai tort, j'arrêterai tout de suite. Or, oui. Au fur et à mesure que j'avançais, eh bien, j'ai eu la satisfaction de découvrir que je découvrais petit à petit donc pourquoi j'avais raison.
Oui. Et au fond, votre rêve d'enfance était d'être médecin. Aujourd'hui, quand vous vous retournez, puisque vous êtes à mi-parcours, un peu plus de mi-parcours, avez-vous réalisé un rêve d'enfant?
Je crois qu'indirectement, je l'ai réalisé. Oui. J'ai peut-être pas le titre, mais oui. La fonction que j'ai est tout à fait celle d'un scientifique, parce que médecin, ça veut pas dire grand-chose. Encore que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est m'occuper des autres. C'est-à-dire que la seule chose que je regrette dans ce que je fais, c'est de ne pas pouvoir faire des recommandations personnalisées. Parce que là, on m'attend au tournant. Ça serait de l'exercice illégal de la médecine.
Vous n'avez pas intérêt à mettre un petit
donc,
doigt
je
dedans.
Le fais toujours indirectement. C'est sur les médecins qui travaillent avec moi qui le font et avec qui on en discute. Mais j'aurais aimé, moi, m'occuper personnellement des gens. Donc, c'est peut-être ça qui sera le regret de ma carrière.
Bye.
Bonjour Thomas Dansembourg.
Bonjour.
Je suis ravie de vous recevoir sur ce thème parce que nous ne faisons pas dans la nuance et dans la dentelle en ce qui concerne le bonheur. Dès le début du livre, vous dites, d'un côté nous attendons le bonheur, évidemment comme quelque chose qui nous est dû, puis d'un autre côté, une autre partie de nous dit, c'est pas pour moi, c'est inatteignable, j'y arriverai jamais. Et au fond, est-ce que deux parties de nous se font la guerre tout au long de notre vie? Est-ce un peu ça, le spectacle auquel vous assistez, vous?
Oui, c'est vraiment ça, le spectacle auquel j'assiste, auquel j'ai assisté d'abord à l'intérieur de moi-même, en regardant mon attitude ambiguë vis-à-vis du bonheur, et puis en accompagnant beaucoup de personnes dans ce cheminement-là, comme thérapeute, de constater qu'effectivement, la plupart d'entre nous sommes tenaillés, déchirés, partagés, je dirais schizophrénés, si j'osais ce néologisme, entre une partie de nous qui se dit que bien sûr c'est ça qu'on cherche, le bonheur derrière chaque acte, on cherche à être plus heureux, à grandir en épanouissement, en bien-être, et à la fois c'est comme si c'était interdit, comme si c'était tabou et qu'on ne pouvait pas y avoir accès, que si jamais on goûtait du bonheur, attention parce que la facture va être lourde à payer, on risque d'avoir un retour de manivelle, et donc je pense que la plupart d'entre nous avons une attitude un peu schizophrénique, en tout cas certainement ambiguë par rapport au bonheur.
Je me suis demandé, en vous lisant là, dans les premières pages, est-ce que c'est un héritage qui nous viendrait de ce judéo-christianisme et de cette schizophrénie entre le bien et le mal, justement? Il y a une partie de nous qui ne peut pas croire au bien et l'autre partie qui aspire profondément à vivre ce bien, ce bonheur, bien au sens du bonheur.
Oui, je crois profondément que c'est historique, que c'est culturel, ça n'est pas naturel. Je veux dire par là que c'est notre nature de goûter un bonheur profond, intime, à l'intérieur de nous, dans la relation avec nous, dans la relation avec les autres et dans la relation avec la vie, la nature, l'univers ou Dieu, on appelle ça comme on veut, sur ces trois axes. Ce contentement intime dans la relation avec soi, les autres et la vie, l'univers ou Dieu. Je crois que c'est ça profondément le bonheur. Et nous cherchons ça, c'est vraiment naturel profondément, mais culturellement, dans notre culture depuis peut-être des centaines d'années, il y a ce double vaccin que j'identifie dans mon livre et qui nous fait dire d'abord, on n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour rigoler. À côté de ça, il y a cette autre petite phrase, également bue avec le lait maternel. Oui, mais il faut être heureux quand même avec ce qu'on a. On n'est pas les plus malheureux sur Terre. Oui. Et dans cette optique-là, le bonheur est obligatoire.
Et en plus, c'est
alors,
vrai.
Entre le bonheur interdit et le bonheur obligatoire, il y a effectivement de quoi être tétanisé, schizophréné.
Et névrosé.
Névrosé, c'est ça.
Thomas Dansembourg, mais comment expliquer que notre aspiration profonde, c'est d'aller vers le bonheur, de le vivre, de le vibrer, et que d'un autre côté, on n'en a pas la compétence? C'est un peu une histoire de fou, ça, non?
Oui, c'est vraiment ça l'histoire de fou, c'est que on n'en fait pas l'apprentissage.
Oui,
curieusement, dans nos vies, nous allons faire des tas d'apprentissages dont nous aurons le bien-être, le bénéfice, l'agrément. Que ce soit apprendre une nouvelle langue, apprendre un métier, apprendre une technologie, apprendre un nouveau sport, tout ça, apprendre à conduire une voiture, à rouler en vélo. Et tout ça suppose des apprentissages pour lesquels on va consacrer du temps, de l'énergie, de la concentration, des efforts. Et bien sûr, on aura un jour le bénéfice de parler la nouvelle langue, de connaître la nouvelle technologie ou de pratiquer le nouveau sport. Et curieusement, le bonheur, la plupart d'entre nous attendons qu'il s'instaure dans notre vie sans en avoir fait aucun apprentissage, comme si ça allait tomber par miracle sans avoir rien appris. Et bien, c'est pour ça que si peu d'entre nous ont accès au bonheur, je pense profondément, et c'est le sens de mon livre, que nous avons des apprentissages à faire et que comme tout apprentissage, ça n'est pas toujours confortable.
Mais alors, est-ce que c'est aussi lié au fait que nous avons chacun notre définition du bonheur? C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas une école du bonheur qui fonctionnerait pour tout le monde.
Certainement qu'il y a autant de définitions du bonheur qu'il y a d'êtres humains, donc ça fait pas mal. Quand je disais tout à l'heure que je crois bien que c'est tenter, être heureux, c'est tenter de goûter ce profond contentement intérieur dans la relation avec soi, les autres et la vie, l'univers ou Dieu, sur ces trois axes-là, c'est ce que c'est la définition qui, moi, me paraît rendre mieux compte de cette chose-là, de cette tension, ce désir en nous, et qui paraît bien correspondre à ce que cherchent les dizaines de personnes que j'ai pu accompagner dans mon métier comme thérapeute ou formateur.
Alors, vous en avez tiré de cette expérience, et puis de vos travaux, puis de votre expérience de vie, un certain nombre de clés. Vous appelez notamment les deux premiers principes dont vous parlez dans ce livre. Alors, première chose, c'est que, mais les Chinois l'avaient dit avant vous, c'est que tout change tout le temps. C'est-à-dire que ce qui définit la vie, c'est le changement constant. Alors là, déjà, catastrophe, parce que nous, on passe notre temps à essayer de figer les choses.
Oui.
Et vous vous dites, au fond, il nous faut profondément accepter, enfin en tout cas constater et ensuite accepter l'alternance entre des moments, alors des moments où on est bien, des moments où on est moins bien. Vous pouvez en dire un petit peu plus sur ce phénomène, oui, ce principe d'alternance.
À force d'observer la vie pendant une quinzaine d'années, il m'est vraiment apparu qu'il y avait comme un principe de fonctionnement de base, une constante qui est l'alternance. L'alternance entre la joie et la peine, entre la confiance et le doute, entre la sécurité et la peur, il y a une alternance, un mouvement. Et le jour, la nuit, bien sûr, c'est certain, mais même là, maintenant, nous sommes en alternance, j'inspire, je respire, je me rapproche, je me recule.
Enfin, vous causez, je me tais, voilà. Et vice-versa.
Et vice-versa. L'alternance, elle est constante, elle est un principe de vie, c'est vraiment, comme vous disiez, une respiration. Alors, nous savons ça, notamment pour la vie naturelle, personne ne s'étonne de l'arrivée de l'automne, même si ça ne fait pas toujours plaisir, mais nous savons que cette saison est nécessaire, elle vient tout défaire, tout décomposer pour que la nature se repose, entre dans l'hiver où elle se restaurera. Or, de mémoire d'être humain sur la planète, il n'y a pas de saison d'hiver qui n'ait débouché sur un printemps. Eh bien, je pense profondément que dans nos cycles psychiques, nous pouvons toujours déboucher sur un printemps si nous veillons avec sérénité, avec patience, avec attention, en se demandant, tiens, qu'est-ce que cet hiver vient m'apprendre ?
Mais nous, alors, nous associons hiver à absence de bonheur. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une alternance automatique malheur-bonheur ?
Je dirais pas malheur,
bonheur. Est-ce que
l'hiver,
c'est le malheur ?
Mais pas forcément. Mais justement, passage, transition, moment de perte de repère, moment d'absence, comme ça, de brouillard. C'est pas forcément le malheur, mais c'est des saisons, je dirais vraiment. C'est le mot saison qui me paraît le plus clair par rapport à ça. Et c'est ainsi que j'identifiais comme un premier principe de l'existence dont la compréhension peut nous aider à mieux vivre les moments d'accalmie ou de brouillard ou même de passage vraiment dans un torrent tumultueux. Sous cette formule-là, l'alternance dans notre vie, elle n'est pas un accident, l'alternance, elle est un ingrédient. Elle est comme la structure même de la vie.
Elle est la vie elle-même.
Elle est la vie elle-même, c'est ça. Ouais. Alors, nos hivers psychiques sont pour moi très très précieux parce qu'ils sont des saisons qui préparent la maturation d'un printemps.
Alors, il y a un deuxième principe qui permet aussi de comprendre que le bonheur n'est pas un état, mais peut-être une recherche, c'est que derrière tout événement, caché au creux de toute situation, il y a une flamme, il y a une lumière, il y a quelque chose qui est un indice de vie. Est-ce que c'est bien ça ?
Oui.
Comment vous le diriez-vous ?
Oui, c'est ça. J'ai appelé ce principe-là, ça paraît un peu pompeux de dire principe, mais dans ce mode de fonctionnement de la vie, je l'ai appelé le présent ouvert sur la continuité. Souvent, nous croyons que parce que nous entrons dans l'automne ou à forcerie dans l'hiver, tout s'arrête là et puis c'est fichu. Alors, je propose de voir que, bien sûr, dans la vie, nous allons vivre des moments malheureux et chacun peut en connaître et parfois plus durablement que d'autres. J'en ai connu également pas mal. Alors je propose de voir que si je ne suis pas heureux de ce qui m'arrive, ça ne veut pas dire que ce qui m'arrive n'est pas heureux. La chose est à mettre en perspective et peut-être ce sera arrivé aux auditeurs comme ça m'est arrivé d'être au chevet d'un mourant, d'un proche qui s'en va et ce sont les derniers moments. Et dans une partie du cœur on sent le vide de la toute prochaine séparation et en même temps la plénitude d'être là, d'avoir l'occasion de se dire peut-être les derniers mots, un moment tout à fait unique, peut-être de se réconcilier d'une querelle, peut-être de combler un vide, peut-être juste d'échanger un silence, un regard qui témoigne d'une affection profonde et l'on sent à ce moment-là précis que cet instant-là va changer complètement notre regard pour le restant de nos jours. Alors, si je ne suis pas heureux de ce qui m'arrive, ça ne veut pas dire que ce qui m'arrive n'est pas heureux, dans la perspective.
En vous lisant, je me disais, mais ce qui nous rend malheureux, c'est cette idée constante en arrière-plan qui tourne, et souvent dans l'inconscient, que ce qui est ne devrait pas être. Et qu'au fond, c'est cette croyance-là, cette sorte de révolte profonde, qui est, mais ça ne devrait pas m'arriver, ça ne devrait pas être comme ça, comme si nous devions vivre quelque chose d'absolu, que nous savons à l'avance. Est-ce que c'est ça, un peu une sorte de révolte ?
Oui, c'est vraiment une révolte contre ce qui arrive, ce qui est donc une révolte contre ce principe d'alternance, contre lequel on ne peut rien. On
ne
peut pas empêcher l'automne ou l'hiver d'arriver, c'est absurde.
N'empêche pas les feuilles de tomber.
C'est complètement absurde. Donc beaucoup d'énergie est consacrée à lutter contre ce qui nous arrive plutôt que se dire tiens qu'ai-je à apprendre de ce qui arrive. Ça ne veut pas dire subir, ça veut dire tirer parti pour orienter, guider la vie, son propre pas à travers la vie autrement, mais plus à l'opposé, mais avec le courant. Vous savez, beaucoup d'entre nous passent leur vie à lutter contre courant, en s'accrochant à ce qu'ils connaissent, à ce qu'ils savent, à leurs idées fixes. Il n'y a rien de fixe dans la nature. La seule chose fixe dans l'univers, c'est l'homme qui l'a inventé, c'est l'homme qui a inventé l'idée fixe, le jugement arrêté sur la chose, le préjugé bétonné. Et donc l'homme, bien évidemment, se sent malheureux dès qu'il est dans cette fixité, puisque tout autour de lui est mouvement. Il se sent seul, il se sent séparé. Alors une bonne façon de ne plus se sentir seul, de ne plus se sentir séparé, c'est d'aller avec les événements, même s'ils ne sont pas confortables, pour aller voir qu'est-ce qu'ils renseignent. Mmh. Et se laisser un peu porter par le cours, non pas pour aller n'importe où, mais parce que porter par le cours, je peux orienter ma nage, pour prendre l'image d'un fleuve, vers la droite, vers la gauche, ou en plein centre, selon mon choix, mais porter par le fleuve, plutôt qu'en résistance avec les événements du fleuve.
Le goût de vivre, de 14 à 15 heures, sur la première.
Une goutte puis deux, tombent en trombe à l'averse, et paraissent le pas des piétons en détresse. Une porte cochère pour abri de fortune. Il a froid, il renifle, il déteste l'automne. Une jeune femme le rejoint, elle est trempée jusqu'aux os. Elle le regarde en souriant, ils échangent quelques mots. Elle confie son prénom, il craignait qu'elle résiste. Il prie la météo pour que la pluie persiste. Les beaux jours reviennent, les beaux jours reviennent, les beaux jours reviennent, les beaux jours reviennent. Elle corrige ses cheveux, mais y a plus rien à faire. Elle s'était pomponnée, la pluie a tout mis en l'air. Maquillée comme un chef indien, ravissante pourtant. Les filles sont waterproof, c'est bien conçu franchement. D'autres passants égarés cherchent refuge mais renoncent. C'est une porte cochère, biplace par chance. Sa main frôle la sienne, ça n'a rien d'un hasard. Novembre, la pluie, le froid, le vent, le tonnerre. Les beaux jours reviennent, les beaux jours reviennent, les beaux jours reviennent, les beaux jours. Est-ce qu'ils en restent là? Son regard la questionne. S'il assure demain matin, elle aura chopé son rhume. Il croit ses doigts gelés, serrés dans ses poches. La pluie s'est arrêtée, leurs lèvres se rapprochent. Les gouttes se font plus rares, il en redoute l'éclaircie. Le soleil pourrait reprendre ce qu'apportait la pluie. Le soleil revient, le soleil revient, le soleil revient, le soleil revient.
Thomas d'Ansembourg, si j'entends bien ce que vous partagez là depuis quelques minutes, nous avons besoin de redéfinir notre vision du monde. À travers tout ce que vous venez de dire, nous avons toutes sortes de croyances. Vous disiez que nous sommes fixés sur un certain nombre de choses. Nous avons besoin de revisiter, au fond, ce qui nous fait souffrir. Mais ce n'est pas un mince travail. Et quand vous dites « être heureux, ça n'est pas confortable », qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ce titre est évidemment très provocateur et plein de gens m'ont dit « oh là là, je ne savais pas ce que j'allais trouver en ouvrant le livre ».
Oui, c'est ça. C'est accepter cet inconfort qu'effectivement, si on entre dans l'automne, ben, ce sera peut-être pas le même confort que l'été. Si on entre dans l'hiver, ce sera pas le même confort que l'automne. Ça va changer. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas du sens. S'asseoir avec soi pour vérifier, effectivement, je suis un peu contaminé par ce double vaccin dont on parlait en début d'émission. Là, il y a une partie de moi qui dit, je crois que j'ai pas droit au bonheur, on n'est pas là pour rigoler, mais il y a l'autre qui se dit, mais je dois être heureux quand même, alors je suis pris dans une culpabilité qui ne sert à personne et qui me dessert moi complètement. S'asseoir avec ça pour aller faire le point de ça, c'est pas forcément confortable. Beaucoup d'entre nous préfèrent être le nez dans le guidon, comme on dit, et être dans le faire, dans l'action, dans les projets, sans avoir remis ces choses-là en question, et donc continuent de vivre une vie en surface d'eux-mêmes, avec de petits plaisirs, plutôt que d'avoir de profondes joies.
Alors vous êtes passé, vous, par l'étude et le travail avec la communication non violente de Marshall Rosenberg. Qu'est-ce que ça vous a apporté à ce développement sur le bonheur?
Certainement que la communication non violente de Marshall Rosenberg a été pour moi une clé de compréhension d'enjeux que jusque-là je comprenais très très peu. C'est vraiment une pratique qui contribue pour moi fondamentalement à clarifier la conscience sur des enjeux extrêmement précieux pour une meilleure qualité de relation avec soi, avec les autres et avec la vie. Et donc, cette méthode est extrêmement clarifiante pour mieux comprendre ce que je suis en train de vivre, plutôt que subir ce que je suis en train de vivre, en tirer l'enseignement. Si, par exemple, il m'arrive une grande peine dans ma vie, une séparation difficile, douloureuse, par la communication non violente, je vais aller voir à l'intérieur de moi-même qu'ai-je à tirer comme partie de cette expérience-là, plutôt que d'accuser l'autre, d'être dans le reproche, dans la critique, ce qui n'apporte pas de bien-être, mais dans lequel, malheureusement, beaucoup d'êtres s'entretiennent. On s'entretient dans la plainte et dans la victimisation. Ça n'apporte pas de joie. Mais allez voir plutôt qu'est-ce que moi j'ai à apprendre là-dedans. Peut-être à être plus autonome, peut-être à être plus affirmatif, peut-être à prendre ma place plutôt, peut-être à pouvoir vider les désaccords quand il y en a, entrer dans les colères quand elles sont là, plutôt que les dissimuler et les rendre donc explosives à retardement.
Donc là, vous faites référence notamment à cette notion de responsabilisation. Je suis le premier responsable des résultats que j'obtiens, en quelque sorte, c'est ça. Ça, c'est vraiment, à un moment, une sorte de déplacement. En termes de vision du monde, se sentir responsable, très souvent nous entendons tout de suite « je suis coupable de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas savoir ce qu'il faut », etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette responsabilisation ? Par quoi commencer ?
C'est vrai que c'est tout un travail. Je pense que systématiquement dans le travail thérapeutique, la personne commence par se plaindre. Moi, je me suis plaint pendant des années sur mon fauteuil en face de mon thérapeute, plaint de tout, de papa, maman, de la religion, du milieu dans lequel j'avais grandi, etc. Jusqu'au moment où cet état de plainte m'est apparu en disant « mais qu'est-ce que j'attends pour changer ? L'univers ne va pas venir à ma rescousse si moi, j'enclenche pas un processus de changement. » Et j'ai senti cette colère par rapport à moi-même, me dire « maintenant, j'en ai ras-le-bol de cette plainte, je vais me prendre en charge et aller voir ce que j'ai à faire. » Et donc, j'ai senti tout d'un coup le goût d'être responsable, et dire bon, peut-être que toutes ces choses-là se sont passées et que j'ai pas aimé ça, maintenant qu'est-ce que moi je fais ? Et c'est vraiment ce processus-là que nous encourageons, bien sûr qu'en thérapie, tout thérapeute, je pense, encourage à aider la personne à reprendre la responsabilité, oui, la maîtrise de sa vie, même si elle a été bien meurtrie par elle, et bien sûr que la communication non-violente particulièrement nous invite à chercher notre propre responsabilité. En quoi avons-nous, nous, un pouvoir d'action ? Et ça a toujours été, personnellement, mon fil conducteur. Même si la situation paraît tragique, il reste un tout petit pouvoir d'action quelque part, j'en suis convaincu. On va aller voir où est-il ? Fut-il infime ? Mais au moins, en tirant sur ce petit fil-là, on va enclencher un mouvement. Vous savez, c'est comme si on veut remettre un mouvement dans une vieille mécanique rouillée. Vous allez peut-être mettre un tout petit peu de mouvement dans une toute petite pièce, tout à fait à l'écart. Mais ce petit mouvement-là va mettre un peu de mouvement dans la pièce suivante, qui mettra un peu de mouvement dans la pièce suivante, etc. Et à un moment, cette vieille mécanique rouillée va retrouver sa fluidité, son mouvement. On commence par là où c'est possible. Mmh. Et là, je pense qu'effectivement, nous pouvons donc faire un travail pour grandir en responsabilité.
Mmh. Mais pourquoi est-ce que nous sommes si nombreux ? Là, je parle de nos sociétés. Puis peut-être que vous faites partie encore aujourd'hui de ces gens-là qui courent, qui s'activent, qui sont... Là, vous êtes en tournée de conférence. Nous travaillons beaucoup, nous sommes très centrés sur le travail, la productivité. Pourquoi est-ce que nous continuons alors que nous savons très bien que du point de vue de la santé, du stress, maintenant nous avons beaucoup, beaucoup de connaissances et pour autant nous n'avons pas encore complètement changé. Je parle en tant que groupe, hein, en tant qu'individu, certainement nous faisons des prises de conscience et des changements. Mais pourquoi est-ce que nous courons encore contre, je ne sais pas après quoi, l'agir ?
Le faire, je crois. C'est le piège. Un des pièges anti-bonheur que j'identifie dans mon livre, c'est cette habitude très liée à notre culture. De nouveau, je ne pense pas que ce soit vraiment naturel, notre nature, c'est plutôt notre culture d'être valorisé pour ce qu'on fait. Gentil garçon, gentille fille, nous avons plus appris à faire qu'à être parce qu'on nous a donné l'impression que nous étions aimés pour ce que nous faisions.
Et les bonnes notes à l'école.
Les bonnes notes à l'école, les bons résultats, mets ta belle robe pour aller chez bonne maman, donne la belle main, fais un beau sourire, enfin, le faire, le paraître, oui, l'extérieur, la performance, le résultat, plutôt que l'être. Il est rare, vraiment, que nous nous sentions profondément aimés pour ce que nous sommes, quoi que nous fassions. Ce qui crée chez nous donc une insécurité, nous sommes toujours en train d'essayer de plaire davantage en faisant de plus en plus. J'ai appris à ne m'aimer, à avoir un regard valorisant sur moi, que quand je suis épuisé à minuit, tellement j'ai couru depuis 6 heures du matin, et produit, et que je peux enfin me coucher, éteindre la lumière, non pas dans un état de bien-être profond, ayant été de choses choisies dans ma vie, en choses choisies tout au long du jour, mais je me couche plutôt le soir en état de non-mauvaise conscience, comme si je pouvais enfin crier « ouf, plus, je peux plus, donc je peux enfin éteindre ma lumière ». écroulé. Bon, d'accord. C'est pas un état de bonheur.
Admettons qu'on accepte de prendre le risque de l'inconfort et que l'on va renoncer à plaire à un certain nombre de personnes, dont d'abord notre entourage très proche, et puis notre patron, puis c'est quand même celui qui va faire qu'on va manger à la fin du mois. Enfin, toutes ces sortes de choses, n'est-ce pas, Thomas d'Ansembourg. On prend le risque de se marginaliser, de se sentir rejeté. Ça aussi, c'est inconfortable, bien pour sûr. Reprendre votre définition.
Bien sûr. Alors, je ne suis pas en train d'inviter qui que ce soit à chercher ouvertement, à déplaire, bien évidemment, mais à accepter qu'effectivement, pour aller de plus en plus vers soi, dans le respect de soi, ce qui est la clé, notez-le bien, de la capacité à respecter l'autre. Hein. Je ne peux pas vraiment respecter l'autre si je ne me respecte pas moi vraiment. Eh bien, accepter de se respecter vraiment et d'être davantage fidèle à soi-même, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Alors, je ne suis pas non plus en train d'inviter à qui que ce soit à dans les brancards, mais d'instaurer davantage de respect de soi dans sa vie, d'instaurer davantage d'affirmation de soi et de respect de ses limites dans son travail, de ne plus dire forcément oui à tout. Et c'est un des pièges encore que j'identifie dans mon livre, c'est cette habitude de dire oui à bien plus que ce à quoi nous avons l'élan. Et nous disons oui souvent, non pas par amour, mais par peur.
Donc pour éviter quelque chose.
Pour éviter un jugement, un rejet, une désapprobation, etc.
Alors il y a un moment difficile, vous dites, dans le développement personnel.
Oui, effectivement. Il y a un moment difficile,
c'est quand on commence à affirmer ce qui est important pour nous.
Oui, c'est une étape difficile et c'est assez logique à comprendre. La personne qui s'est longtemps coupée d'elle-même pour se suradapter aux attentes de papa, de maman, de l'instituteur, du petit voisin, du conjoint, puis des enfants, puis du patron, et qui a toujours pris soin davantage des besoins des autres que des siens, le jour où elle commence à comprendre que s'écouter c'est légitime, que son hygiène de vie et son hygiène relationnelle sera infiniment améliorée si elle prend d'abord un peu plus soin d'elle-même, elle passe un peu dans la caricature de la personne qui tout d'un coup ne valorise plus que ses propres besoins et se met dans une attitude d'affirmation,
de revendication,
revendicatrice quasiment, et sans plus d'écoute de l'autre justement. Alors c'est un mouvement, je dirais un peu de balancier
extrême. Là on retrouve l'alternance
dont on parlait tout à l'heure, et c'est un stade que Marshall Rosenberg lui-même, qui a une grande expérience donc du développement personnel, appelle le stade exécrable. C'est que vraiment la personne est dans une attitude de revendication juste pour elle-même, quitte à couper les ponts avec tout le monde, ou à rendre en tout cas la vie très difficile aux autres. Alors c'est précieux juste de savoir que c'est un stade en principe, parce qu'il peut y avoir des gens qui s'installent là-dedans.
C'est tellement délicieux. Ils s'installent.
Mais je ne crois pas que ce soit délicieux d'être coupé de l'attention aux autres. Je pense que vraiment une bonne partie de notre profond bien-être justement est ce plaisir d'être en lien avec les autres, d'être proche, de donner, de contribuer, d'échanger.
Mais Thomas, pour revenir à cette notion-là de réactivité, par rapport au fait de s'affirmer, il y a aussi cette idée que parfois on va peut-être rompre des liens importants pour nous. C'est quand on dit « oulala, il rentre en thérapie, il va peut-être divorcer ». Bon, je sais que c'est des croyances, mais il n'y a pas que des idées reçues. Il y a un certain nombre de travaux, de travail sur soi qui provoquent des séparations.
Alors, je ne dirais pas que c'est le travail de soi qui provoque la séparation, c'est la prise de conscience qui va amener à prendre conscience que certains choix n'étaient pas aussi fondamentaux qu'ils n'étaient apparus. Bien sûr que j'encourage profondément les personnes, notamment qui sont en couple, à cheminer ensemble, parce que c'est une belle occasion de développer leur conscience ensemble et de rester à un terrain où au moins elles peuvent se parler, s'estimer, s'encourager, quitte à peut-être à un moment constater, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord, ça nous fait comme un point commun, et on se sépare le cas échéant dans l'estime et la bienveillance, et vraiment le profond respect pour l'humanité de l'autre, plutôt que de s'empoigner comme j'ai pu, quand j'étais avocat, constater des divorces tragiques, déchirants, sanglants, entre des personnes qui, quelques années avant, s'étaient retrouvées bras dessus, bras dessous devant le monsieur le curé ou monsieur le maire, et qui, quelques années après, à force d'avoir rentré leurs amertumes, étaient trop gentils, avoir à tout rentrer dans la cocotte minute, explosaient dans des divorces sanglants. Je pense qu'effectivement, le développement personnel, la connaissance de soi, peut amener plus de conscience et que c'est heureux de le faire ensemble pour pouvoir, s'il s'agit de se séparer dans l'estime. Mais je crois profondément que nous pouvons aussi grandir ensemble à deux et que c'est un
justement,
magnifique parcours de
puisqu'on
couple.
Puisqu'on parle du bonheur là aujourd'hui avec vous, est-ce que l'on peut vraiment cultiver ce bonheur à deux dans la durée? Parce qu'on est un petit peu en constat d'échec, on se choisit, on fait un bout de chemin, on sait que le deuxième couple statistiquement sera moins long, et le troisième encore moins long que le deuxième, donc là aussi il y a une course. Est-ce que le fait de prendre conscience de cet enjeu du bonheur, mais pas dicté de l'extérieur, mais comme quelque chose qui monte de l'intérieur, peut changer quelque chose aux relations de couple justement, nous rendre plus heureux?
Bien sûr, nous pouvons courir d'une vie affective à une autre vie affective sans en avoir rien appris, sans avoir tiré les leçons. Mmh. Et donc, nous risquons effectivement de reproduire plus loin ce que nous avons déjà subi une première fois. Mon encouragement est vraiment d'approfondir la relation d'abord à deux.
De prendre du temps pour ça,
de s'arrêter, de valoriser le temps pour ça. Bien des gens diront, oui, mais on n'a plus le temps de s'entendre, on travaille tous les deux. Oui, parce quel étonnant choix de vie, on travaille pourquoi ? Pour être heureux. Mais est-ce qu'on peut être heureux si on ne nourrit pas aussi sa relation affective profondément et qu'on ne l'entretient pas ? C'est quelque chose qui n'est pas encore très largement répandu, l'idée qu'une relation s'entretient.
Oui.
Qu'elle a besoin d'une maintenance pour se maintenir, alors que nous prendrons soin de notre percolateur à café ou de notre tondeuse à gazon ou
on prend du temps pour l'ordinateur et le gazon.
Et oui, ou la voiture, bien évidemment. Tout le monde prendra du temps pour mettre la voiture à l'entretien parce que c'est primordial d'avoir une voiture qui fonctionne bien. Et curieusement, quand la relation va moins bien, quand elle donne des signes un peu d'usure, il est rare qu'on la mette au centre de nos préoccupations pour en assurer l'entretien, la révision.
Thomas, là, je vais vous provoquer un peu, mais c'est quand même une plainte plus féminine. Pourquoi est-ce que les hommes investissent moins de temps et d'énergie dans la relation à deux ? Et là, n'y voyez pas une accusation, mais un constat.
Oh, c'est un constat que je partage. Je pense qu'ils sont plus encore que les femmes piégés par le faire plutôt que l'être.
Comment vous avez-vous fait cette prise de conscience, Thomas ? Parce que vous êtes un homme, j'en profite pour vous questionner. Parce que vous vous mettez en cause plusieurs fois dans ce livre. C'est une des choses que je trouve touchantes. Vous parlez de moments de confrontation avec Valérie, votre épouse. Comment est-ce que vous avez pris conscience, vous, de ça ? Vous en parlez bien, j'imagine que c'est parce que vous vivez des prises de conscience.
Si ce déclenchement est arrivé, c'est que j'ai perçu vraiment assez rapidement que chercher le bonheur à l'extérieur, ça n'allait pas marcher parce que c'était toujours insatiable. Mmh. Bon, avant de me marier, j'ai bien aimé les rencontres, comme beaucoup d'hommes, et je me suis rendu compte que les rencontres successives n'apportaient pas le bonheur. Ce qui devait être plaisant, c'est de nourrir une profonde relation dans la durée. Et de se dire, maintenant, je m'installe là-dedans, je l'explore complètement. Et que le plaisir de la séduction, de l'aventure, c'était très court, ça n'était pas nourrissant en profondeur.
C'est pas nourrissant.
Je mesurais aussi que dans le travail, les succès que je pouvais rencontrer dans mon métier comme avocat puis juriste dans une grosse multinationale américaine, ça pouvait apporter une certaine joie, mais pas un profond bonheur de nouveau. Et c'était toujours insatiable. Dès qu'un dossier était clôturé, bon, on cherchait autre chose pour être un peu excité. Et c'était pas ça que je voulais. Je me disais, moi, je veux un bonheur que je porte en moi, quoi que je vive, au quotidien. Et que je garde à l'intérieur de moi-même comme on prend un bagage en cabine pour être sûr de ne pas le perdre à un transfert. Oui.
C'est joli, ça.
Et donc, c'est ce bonheur-là que je voudrais inviter les gens à nourrir, qu'ils puissent le porter dans leur cœur, quelles que soient les intempéries qu'ils traversent.
Ouais, c'est comme un choix, en fait.
Je choisis de me mettre là.
Radio Suisse Romande, la première, le goût de vivre. Je me sens comme un champion qui court le marathon.
que je t'ai rencontré à une séance d'aérobic. Toute ma vie a changé. Maintenant je me réveille en musique. M'as-tu vu courir? M'as-tu vu courir? M'as-tu vu courir dans ta rue? Je t'aime comme un fou. Je t'aime comme un fou. Je t'aime comme un fou, mais tu t'en fous. Je t'aime comme un fou. Je t'aime comme un fou. Je me tatoue ton nom tout partout. Je t'aime comme un fou. Je t'aime comme un fou. Je t'aime comme un fou, mais tu t'en fous. Je t'aime comme un fou. Je t'aime comme un fou. Je me tatoue ton nom tout partout. Je t'aime comme un fou.
Le goût de vivre. Rosine Fayard.
Thomas Dansembourg, j'aimerais parler de cette notion de joie intense. Nous avons de la difficulté, même lorsque nous vivons un moment de bonheur, à l'exprimer, à en déborder, à gicler même un peu de bonheur et de joie sur les autres. Comme si, là je reviens encore au double message dont vous parlez à plusieurs reprises dans ce livre, hein. Double message étant, alors si... Par chance, tu es heureux, n'en fais pas trop, profil bas. Mmh. Là aussi, une injonction contradictoire qui est aussi déséquilibrante. Pourquoi ?
Je crois que c'est de nouveau un peu un tabou. Si on est heureux, il ne faut pas le montrer, sinon on risque de perdre son bonheur.
Oui.
C'est une sorte de malédiction.
Oui.
Et alors aussi, il y a la culpabilité. De dire, oui, si moi j'ai la chance d'être heureux, il ne faut pas que je le montre aux autres parce qu'eux, ils ne sont pas aussi heureux que moi, donc ce ne serait pas gentil pour eux. Comme si ça pouvait apporter quoi que ce soit de dissimuler sa joie. Si effectivement il y a beaucoup de malheur dans le monde, je pense que la meilleure façon de contribuer à un monde plus heureux, c'est d'être heureux soi-même et de le témoigner, d'être rayonnant de bien-être et de bonheur autour de soi,
ouais.
Avec compassion et bienveillance pour les autres, bien sûr, certainement pas avec vanité. Donc je crois qu'effectivement, il y a à oser être heureux. Et c'est vraiment à changer de culture. Nous avons beaucoup plus une culture du malheur comme une culture de la guerre qu'une culture du bonheur et une culture de la paix.
C'est un peu comme si nous avions les outils pour faire face au malheur, mais pas pour vivre le bonheur.
C'est tout à fait
ça.
Le malheur, on connaît bien.
Oui, c'est ça.
Hein, c'est on s'en prend plein la gueule, si vous me passez l'expression. Subir,
on
encaisser,
sait au moins là où on en est, oui.
Larmoyer, souffrir. On connaît très très bien tout ça. Et donc, tant qu'on est là-dedans, au fond, on est assez bien en sécurité. C'est un paysage connu. Alors, tout d'un coup, goûter du bonheur, c'est d'ailleurs un processus que les individus qui vont vers plus de bonheur, et que j'ai bien connu moi aussi, quand j'ai commencé à me dire, mais je suis plus heureux, est-ce que c'est normal?
Est-ce que ça
va
s'arrêter?
Je me suis vu moi-même saboter parfois mon bonheur parce que ça m'insécurisait, c'était nouveau. Même si c'était heureux, c'était nouveau. Et donc, je décris dans mon livre, dans ma relation avec Valérie, quand je me suis marié finalement, et que je goûtais vraiment un bonheur de plus en plus grand dans cette relation-là, sans rencontrer du tout toutes les peurs que j'avais avant comme célibataire, de l'enfermement, de l'empêchement d'être moi-même, de la limitation à ma liberté. Tout ça, je le vérifiais pas du tout. Je vérifiais l'estime mutuelle, l'abandon dans la confiance, le respect de la liberté de chacun, au-delà de toute attente. Et je me suis vu plusieurs fois saboter le bonheur parce que c'était trop beau et qu'il fallait que je revienne à ce que je connais. On se dispute, on se chamaille, on boude pendant trois jours. Ça, je connais bien. Et c'était au fond, c'est
sécurisant. Là, on sait comment on fait. Oui, c'est cette idée. On préfère un malheur connu qu'un bonheur inconnu. Hein, c'est cette idée-là.
Ouais.
Qu'on sort? Vous êtes sorti de là et comment est-ce qu'on sort de là?
Ah ben, en identifiant.
Parce que ça, c'est des réflexes conditionnés.
Bah oui, c'est des vieux, c'est pavlovien. Alors, effectivement, il y a un apprentissage à faire. Se dire, je suis heureux, je le goûte pleinement. Et j'ai confiance que ça peut durer. C'est bien ça que je cherche. Et c'est pas, je suis pas tout seul à chercher le bonheur. C'est pas de l'égoïsme. Tout être humain sur la planète cherche à être heureux. Alors si je suis heureux, je le goûte profondément et je suis plein de gratitude. J'envoie de la gratitude à l'univers, à Dieu, à la nature, aux gens, peu importe quel est mon chemin de foi. Mmh. Mais je vis cette gratitude là, sans angélisme non plus. Ce n'est pas parce que je suis heureux maintenant que je serai heureux toujours. Donc je reste ouvert au fait. Rappelons-nous les saisons que tout d'un coup, de nouveau, des circonstances difficiles peuvent arriver sur ma vie.
Mmh.
Mais au moins quand le bonheur est là, je ne le loupe pas.
J'aime bien cette réflexion. Vous parlez de Guy Corneau, qui est aussi un de vos amis, qui vous a dit à propos du bonheur, le bonheur est un stress à gérer comme les autres.
Oh oui, ça m'a été bien utile, ça, parce qu'effectivement, je lui témoignais quand je goûtais de plus en plus de bonheur dans ma vie de couple et puis de jeune papa avec les enfants, etc., que je trouvais ça difficile à vivre, que c'était comme si, effectivement, j'y avais pas droit ou qu'en tout cas, j'avais peur que ça dure pas. Et Guy m'a dit, mais tu sais que c'est une grosse émotion et comme toute émotion, elle représente un stress émotionnel, positif sans doute, mais qui demande quand même une gestion, une attention. Alors prends peut-être simplement du temps pour goûter ton bonheur, le digérer et faire un travail d'intégration de l'émotion comme tu ferais avec la travail de digestion d'une grosse colère ou d'une grosse tristesse pour aller mieux la comprendre et mieux la vivre au fond. Mmh. Et ça m'a bien éclairé et maintenant effectivement je renseigne ça aux personnes en disant, vous savez, si vous goûtez du bonheur, prenez le temps de bien le goûter, de bien le vivre, parce que d'une part vous l'identifierez mieux, vous aurez un meilleur moment à ce moment-là, mais d'autre part vous allez encoder en vous une capacité à revivre le bonheur. Si chaque fois que vous vivez du bonheur, vous le niez en disant non, c'est trop beau pour moi et puis j'ai pas le temps de savourer, d'en profiter.
Ouais.
Vous n'encodez pas votre capacité à être heureux. Ouais. Et donc, vous allez reproduire plutôt votre capacité à être malheureux.
Alors, puisque l'on parle là de changer, au fond, de comportement, par quel bout est-ce qu'on attrape tout ça ? Parce qu'on a tous envie d'être heureux. Alors maintenant, on sait qu'on a le droit. On sait que ça ne s'installe pas, que ce sont des moments et que l'alternance, c'est accueillir ce qui vient et ce qui s'en va. Par quoi est-ce qu'on commence, Thomas d'Ensembourg, pour aller vers plus de bonheur ?
Oh, je dirais vraiment qu'il y a autant de point de départ qu'il y a d'être humain. Je pense qu'au cœur de chacun de nous, il y a un profond élan de vie, un profond élan à contribuer à ce qui est vivant, à participer à cette grande symphonie de la vie, cette fête de la vie, oui, même si elle n'est pas toujours joyeuse, elle a ses hauts et ses bas, cette fête de la vie, enfin ce grand mouvement-là, si nous écoutions davantage nos élans que nos peines, nos souffrances et nos tragédies, je pense que nous pourrions mieux nous orienter vers le bonheur. Donc je recommanderais à toute personne de se laisser titillée par ce qui tressaille en elle. Le goût d'un voyage, le goût de monter sur les planches d'un théâtre, le goût de s'habiller avec beaucoup plus de fantaisie, de se repeindre les cheveux en rouge. Qu'est-ce qui est vivant et qu'est-ce que j'aurais juste envie de laisser s'émanciper en moi ?
Même si ça paraît saugrenu.
Peut-être saugrenu, c'est pas grave, j'ai envie de tester ça.
Donc l'idée c'est que au cœur de ces élans de vie, l'intention positive c'est justement être vivant. C'est ça qu'il faut entendre, parce que parfois on s'étonne soi-même.
Ben oui.
Par ces envies bizarres qu'on a.
Ben
de
oui,
tout quitter, de partir en voyage, de quitter une relation.
Ben je donne l'exemple d'une personne.
De chanter.
Que j'accompagnais et qui disait oui, mais moi, tous mes rêves sont impossibles. Je dis, prenez un rêve impossible, ne vous limitez pas parce qu'il est impossible. Ah, ben je rêve de partir en barque autour du monde comme Maud Fontenoy qui part à travers les océans avec sa barque. Mais c'est impossible, j'ai une famille, des enfants, etc. Peut-être concrètement un voyage autour du monde est impossible, là pour le moment. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans le voyage de Maud Fontenoy autour du monde ? Ah, mais l'aventure ! La découverte, le changement, la solitude dans la nature, l'être livré aux éléments de la nature, etc. Et je dis, mais comment est-ce que vous pourriez instaurer ça dans votre propre vie ? Alors, il y a peut-être une forêt pas loin de chez vous où vous pouvez aller passer de nuit à la Belle Étoile. Vous serez dans les éléments avec pas mal d'aventures, même si c'est au coin du bois de chez vous. Et elle m'a regardé des grands yeux en disant, j'ai jamais pensé à ça. Elle a goûté un voyage comme ça, une petite randonnée dans les bois de sa région, avec logement à la Belle Étoile. Et elle était émerveillée de voir que, bien sûr, c'était pas la traversée de l'Antarctique à la rame, mais c'était quand même une expérience palpitante et grisante.
En fait, vous l'avez reconnectée à son désir profond.
Je l'ai invitée à se reconnecter avec son élan profond, sans y mettre des obstacles. Ouais. Il y aura toujours des obstacles si on reste dans son idée que ça peut pas possible, par exemple.
Sur la fin de votre livre, Thomas d'Ensembourg, vous dites « Être heureux, c'est apprendre à faire de multiples deuils ». Et là, je repensais à ce bouquin qui s'appelle « Les renoncements nécessaires ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est paradoxal, évidemment, avec « lâchez-vous, allez, laissez-vous transporter par cet élan de vie ». D'un autre côté, ces deuils nécessaires pour être heureux.
De nouveau, c'est l'alternance de la vie. Si la vie est un mouvement, il y a forcément toujours quelque chose à quitter. Si j'avance sur le fleuve de la vie, je vais laisser les berges, les paysages magnifiques, etc. Il y a quelque chose à quitter sans arrêt. Et bien sûr, je crois que nous avons au cœur de nous-mêmes comme ce rêve de n'avoir rien à quitter jamais, celui de n'être quitté par rien. Nous sommes peu familiers du deuil, personnellement.
Oui.
Je n'avais pas eu l'idée, enfant, que j'aurais des deuils à faire. Et j'ai perdu ma mère à l'âge de 20 ans d'un cancer qui l'a emporté en moins d'un mois. Je peux vous dire qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'ai pas eu beaucoup de temps de me préparer, que c'était cinglant. Et rien dans ma vie ne m'avait préparé à l'idée que qu'il y avait des choses à lâcher aussi importantes qu'une relation comme celle-là. Or, des deuils, on en fait tous les jours. Deuil de l'enfance, deuil de la jeunesse, deuil de la santé physique, deuil de la beauté physique, deuil de la vitalité, de la vue, de la mobilité peut-être, mais aussi deuil des parents idéaux qu'on n'a pas eu, bien sûr, puisqu'ils étaient incarnés et qu'il est peut-être temps de les accepter comme ils sont. Mais très concrètement, au quotidien, deuil de ce chemin-là que j'aurais bien pris parce qu'il a l'air pas mal, mais finalement je choisis celui-ci parce que quand même, ça, c'est ma priorité. Si je veux pouvoir avancer sur le chemin que j'ai choisi, et avec tout mon cœur et toute ma présence, il s'agit d'avoir fait le deuil de celui que je n'ai pas choisi. Sinon, je mime ça en conférence et ça fait rire les gens. Je leur montre que si je veux avancer sur le chemin choisi, je vais reculer en disant « Oui, mais celui-là, il était quand même pas mal aussi. » Et je repars un peu sur celui que j'aurais voulu prendre. Puis, oui, mais quand même, j'ai choisi, donc je repars par là. Et puis, je leur montre en deux, trois mouvements comme ça de va-et-vient que si je n'ai pas fait le deuil pleinement, je n'avance pas.
Oui, sur place.
Et dans nos vies, nous sommes souvent comme ça. À ne pas avancer parce que nous n'avons pas fait les deuils. Alors je propose cet apparent paradoxe. Je ne peux pas pleinement me réjouir de ce dont je choisis de me réjouir si je n'ai pas d'abord pleinement pleuré ce que j'ai choisi de laisser ou ce que j'ai à laisser parce que la vie m'amène à laisser. Si quelqu'un s'en va dans mon existence par séparation ou par mort, c'est clair que j'ai accepté la chose à un certain moment si je veux pouvoir être heureux et entrer dans cette acceptation. Ça n'est pas forcément confortable.
Vous êtes plus heureux, Thomas, aujourd'hui ?
Alors, on me pose toujours la question.
Évidemment, c'est tentant. Comment vous laisser partir sans ça ?
Alors, je peux vraiment témoigner que je le suis de plus en plus souvent et de plus en plus profondément. Ouais. Ce qui veut dire que c'est pas constant. J'ai des moments de doute, j'ai des moments de révolte, j'ai des moments de colère. Quand je vois comment les humains gèrent encore leurs enjeux sur la planète, je suis effrayé alors qu'ils ont dans leurs mains tant de pouvoir pour mieux s'écouter et mieux se comprendre. Ils en font encore si peu usage et c'est encore si peu connu. Parfois, je suis dans de grands moments de révolte. Mais en même temps, je remonte sur mon cheval du bien-être, du bonheur plus facilement qu'avant. Avant, quand j'en étais, je dirais, déstabilisé, il me fallait parfois des mois pour remonter dessus. Maintenant, j'ai les outils pour m'écouter, pour me comprendre, pour retrouver la confiance. Et c'est précisément ces outils-là que je veux partager avec les êtres humains en disant bien que être heureux constamment, ça me paraît un idéal que je souhaite à chacun. Évidemment, si nous pouvons atteindre peut-être l'état d'éveil du Dalai Lama, par exemple.
On ne sait pas s'il est heureux. On n'en sait rien.
Je n'en sais rien, je ne le connais pas. Il semble, en tout cas, quand on le voit, il semble dégager une profonde sérénité malgré une vie pas forcément facile. Et donc, je souhaite ça à chacun. Mais en attendant d'y arriver, je sais qu'on peut en être... c'est un moment qu'on peut quitter. Je souhaite en tout cas encourager les personnes à le retrouver plus facilement en faisant les apprentissages qui vont avec.
Merci Thomas. Être heureux, ça n'est pas nécessairement confortable. C'est le titre de votre dernier livre sorti aux éditions de l'Homme. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Si vous souhaitez obtenir un enregistrement de cette émission, vous pouvez dès maintenant téléphoner au 026 323 24 24. We give up easily.
most of every day is full of tired excuses, but it's you had to say.
Chanson interprétée par Kitty Tunstall. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui Le Goût de Vivre, mais le dernier invité de la semaine, demain, c'est Bertrand Piccard. J'espère que vous serez au rendez-vous. Merci en tout cas à vous qui avez suivi cette émission. Merci à Marc Frechot qui était à la technique, Karine Vuillamot pour les formidables musiques qui nous ont accompagnés. Je vous souhaite bien sûr une très très bonne fin d'après-midi. Radio Suisse romande, la première, il est tout juste 15h.